Les journaux manquent d'à propos. Ils conçurent d'imbéciles articles pour illustrer sa mort qui coïncidait avec l'entrée en fonction du bourreau Desfourneaux. Commentant l'attitude de Maurice devant la mort, le journal L'Œuvre dit que cet enfant eût été digne d'un autre destin. Bref, on le ravala. Pour moi qui l'ai connu et qui l'ai aimé, je veux ici, le plus doucement possible, tendrement, affirmer qu'il fut digne, par la double et unique splendeur de son âme et de son corps, d'avoir le bénéfice d'une belle mort. Chaque matin, quand j'allais, grâce à la complicité d'un gardien ensorcelé par sa beauté, sa jeunesse et son agonie d'Apollon, de ma cellule à la sienne, pour lui porter quelques cigarettes, levé tôt, il fredonnait et me saluait ainsi en souriant. Salut, Jeannot du matin. Originaire du Puy-de-Dôme, il avait un peu l'accent d'Auvergne. Les jurés offensés par tant de grâce, stupides mais pourtant prestigieux dans leur rôle de parc, le condamnèrent à 20 ans de travaux forcés pour cambriolage de villas sur la côte et le lendemain, parce qu'il avait tué son amant Escudero pour lui voler moins de 1000 francs, cette même cour d'assises condamnait mon ami Maurice Pilorge à avoir la tête tranchée. Il fut exécuté le 17 mars 1939 à Saint-Brieuc.
Radio Libertaire 89.4, la voix sans Dieu ni maître de la Fédération anarchiste. Bonjour, et c'est l'Entonnoir, émission critique de la psychiatrie. Aujourd'hui, on va revenir un peu à l'actualité juridique, concernant la psychiatrie directement, mais on en a entendu parler pas mal ces temps-ci, avant les vicissitudes électorales que nous avons connues cet été. Le projet de loi relatif à l'accompagnement des malades et de la fin de vie, qu'on a aussi appelé loi euthanasie, parfois. Donc, des nouvelles, peu de nouvelles sur ce projet de loi. Je vais m'inspirer pour introduire le sujet de l'article du 10 juin 2024 de viepublique.fr, sur le site viepublique.fr. Donc, un projet de loi qui prévoit la création de maisons d'accompagnement pour les personnes en fin de vie et une aide à mourir pour les personnes atteintes d'une maladie incurable avec un pronostic vital engagé. Cette aide, entre guillemets, enfin c'est nous qui mettons les guillemets, par produit létal est encadré. Alors, évidemment, suite à la dissolution de l'Assemblée nationale le 9 juin 2024, les députés n'ont pas pu achever l'examen du projet de loi en première lecture. Un vote solennel était prévu le 18 juin. Alors, quel était le projet du gouvernement ? Eh bien, ce projet, annoncé par le chef de l'État, répond à une demande sociétale. Il a été précédé d'un avis du Comité consultatif national d'éthique qui s'est dit favorable en 2022 à une aide active à mourir, strictement encadrée, à condition que soient parallèlement renforcés les soins palliatifs. Cet avis a ouvert les débats de la Convention citoyenne sur la fin de vie qui s'est prononcée en avril 2023 pour une ouverture conditionnée d'une aide active à mourir, et plus précisément à la fois du suicide assisté et de l'euthanasie. Les 184 citoyens de cette convention ont considéré que le cadre législatif actuel était insuffisant. Ils ont également souhaité que soient proposés des soins palliatifs pour tous et toutes et partout. Plusieurs pays occidentaux, dont certains voisins de la France, ont déjà légiféré sur la question à la fin de vie. Belgique, Espagne, Autriche, Suisse, Pays-Bas, Luxembourg, Canada et certains États, les États-Unis, ils autorisent l'euthanasie et ou le suicide assisté. Alors, voilà, est-ce que c'est pour faire comme les autres ? Alors, d'abord, il y a le premier volet, c'est les soins d'accompagnement et les directives anticipées. Le projet de loi rénove l'approche de la prise en charge de la douleur et de la fin de vie en intégrant la notion de soins palliatifs définie par le Code de la santé publique dans celle plus englobante de soins d'accompagnement. Ces soins couvrent d'autres soins que les soins palliatifs, prise en charge nutritionnelle, accompagnement psychologique, musicothérapie, massage et plus globalement toutes les mesures mises en œuvre pour répondre aux besoins des malades et de leurs proches aidants. Une nouvelle catégorie d'établissements médico-sociaux dénommée « maison d'accompagnement » est créée. Il s'agira de structures intermédiaires entre le domicile et l'hôpital qui accueilleront et accompagneront les personnes en fin de vie et leur entourage. Ces personnes pourront y être admises lorsque le retour à domicile à la suite d'une hospitalisation n'est pas possible, ou encore lorsque la prise en charge à domicile ou en établissement médico-social ne s'avère pas adaptée afin d'éviter une hospitalisation. Ces maisons seront financées par l'assurance maladie et par un forfait journalier à la charge des personnes accueillies. Les patients, dans le cadre de l'annonce d'une maladie grave, pourront systématiquement bénéficier d'un temps d'échange sur l'anticipation, la coordination et le suivi de leur prise en charge globale et d'un plan personnalisé d'accompagnement. Les conditions dans lesquelles les directives anticipées peuvent être formulées sont améliorées. Les bénéficiaires d'un plan personnalisé d'accompagnement pourront l'annexer à leurs directives anticipées. Toute personne pourra en outre enregistrer ces directives anticipées dans l'espace numérique de santé et accorder un accès à un proche aidant. Alors, premier petit commentaire, si éventuellement cette loi est promulguée, si ça peut améliorer les conditions dans lesquelles les directives anticipées peuvent être formulées, ça peut être un point positif. Dans le sens où ça donnerait un statut légal aux directives anticipées plus fort que ce dont elles bénéficient aujourd'hui. Fin de la parenthèse. Deuxième point de ce projet de loi relatif à l'accompagnement des malades et de la fin de vie, la fin de vie. L'aide à mourir. Le second volet donc du projet de loi concerne l'aide à mourir. Elle consistera à autoriser et à accompagner la mise à disposition à une personne qui le demande d'une substance létale pour qu'elle se l'administre elle-même ou, si elle n'en est pas capable, se la fasse administrer par un médecin, un infirmier, un proche ou une personne volontaire de son choix. Les personnes qui pourront demander cette aide devront être majeures, françaises ou résidents étrangers réguliers et stables en France, aptes à manifester leur volonté de façon libre et éclairée, atteintes d'une maladie grave et incurable avec un pronostic vital engagé à court ou moyen terme, et devront être aussi victimes de souffrances réfractaires, c'est-à-dire qu'on ne peut pas soulager, ou insupportables. Donc toutes ces conditions doivent être réunies. Les personnes devront être capables de prendre leurs décisions ou en ayant conscience de la portée et des conséquences de leur choix, ce qui exclut les personnes souffrant d'une maladie psychiatrique qui altère leur discernement au moment de la démarche. Quant à la notion de court terme ou moyen terme, l'exposé des motifs du gouvernement précise que selon la haute autorité de santé, on parle de pronostic vital engagé à court terme lorsque le décès du patient est attendu dans quelques heures à quelques jours. Le moyen terme se compte quant à lui en semaines ou mois. Le projet de loi définit ensuite l'ensemble de la procédure de l'aide à mourir. Demande, examen, décision du médecin, délai, renoncement et les droits de la personne. Date de la mort, droit de mourir accompagné et hors de son domicile. L'aide à mourir sera prise en charge par l'assurance maladie. Une clause de conscience est instituée pour les professionnels de santé qui refuseraient de participer à la procédure d'aide à mourir. Ils devront renvoyer la personne vers un confrère. Les professionnels qui seraient volontaires pour participer à l'aide à mourir pourront se déclarer auprès d'une nouvelle commission qui centralisera leurs coordonnées. Cette commission, placée auprès du ministre chargé de la Santé, devra contrôler et évaluer le dispositif d'accompagnement à l'aide à mourir. Alors, la Haute Autorité de Santé et l'Agence Nationale de Sécurité des Médicaments et des Produits de Santé seront chargés d'évaluer les substances létales qui seront utilisées pour l'aide à mourir. Plusieurs décrets d'application sont prévus. Enfin, le texte obligera les contrats d'assurance décès, y compris en cours à la date d'entrée en vigueur de la loi, à couvrir le risque de décès en cas de mise en œuvre de l'aide à mourir. Il s'agit de prévenir toute exclusion de couverture de l'aide à mourir, notamment liée à une éventuelle assimilation au suicide. Donc, ne pas mourir hors du cadre du dispositif de l'aide à mourir. L'essentiel des mesures destinées à renforcer les soins palliatifs et d'accompagnement figure dans une nouvelle stratégie décennale présentée en Conseil des ministres le même jour que le projet de loi. Ces mesures s'inspirent des préconisations du rapport vers un modèle français des soins d'accompagnement remis par le professeur Chauvin en décembre 2023. Alors, le texte a évidemment été examiné au Parlement. Les députés ont débattu le projet de loi en première lecture jusqu'au 7 juin 2024, avant que leurs travaux s'interrompent à la suite de la dissolution de l'Assemblée nationale. Sur la première partie du texte, ils ont en particulier distingué les soins palliatifs des soins d'accompagnement, estimant que ces notions n'ont pas le même sens médicalement, ni la même portée. Ils ont inscrit le principe d'organisation territoriale permettant de mettre en œuvre ces soins. Un droit opposable aux soins palliatifs a été instauré. Ainsi, la personne qui a demandé à bénéficier de soins palliatifs et qui ne les a pas reçus dans un certain délai pourra saisir le juge administratif afin que soit ordonnée sa prise en charge. Le principe d'une loi de programmation pour les soins palliatifs tous les 5 ans a été voté, de même que le doublement des crédits de la nouvelle stratégie décennale 2024-2034 des soins palliatifs et d'accompagnement, bien que le projet de loi ne soit pas un texte budgétaire. Le statut juridique des nouvelles maisons de soins palliatifs et d'accompagnement a été précisé. Leur création et gestion seront limitées au secteur public ou privé non lucratif. Dans le but d'améliorer les connaissances sur l'application de la loi Claeys-Leonetti de 2016 sur la sédation profonde et continue, une commission de contrôle et d'évaluation a été instituée. Concernant l'aide à mourir, les députés ont codifié les dispositions du projet de loi dans le Code de la santé publique. Ils ont supprimé la possibilité pour un proche du malade ou une personne tierce volontaire d'administrer la substance létale, estimant que cet acte peut entraîner un traumatisme émotionnel et une charge psychologique considérable. Oui, on va voir un peu plus loin les possibilités de dérive de l'administration de la mort par un proche du malade. Ils ont modifié les conditions à remplir, donc les députés, les conditions à remplir par le malade demandant l'aide à mourir. Ce dernier devra être atteint d'une affection grave et incurable qui engage le pronostic vital en phase avancée ou terminale. Les mots à court ou moyen terme ont été retirés. Par ailleurs, le caractère insupportable de la douleur devra être apprécié par le patient uniquement. Du fait de la dissolution de l'Assemblée nationale, le projet de loi est devenu caduc. Pour que sa discussion reprenne, il faudra que le nouveau gouvernement, s'il le souhaite, le redépose sur le bureau de l'Assemblée après les élections législatives du 30 juin et 7 juillet 2024. Et alors ça, c'est cet article qui date du 10 juin 2024, n'avait pas prévu la période Jeux Olympiques et Paralympiques qui a retardé constitution d'un nouveau gouvernement. Voilà, alors, par rapport à cet article, nous avions sur Dalloz Actualités un article à peu près de la même période, le 11 juin 2024, projet de loi sur la fin de vie, une fois les bornes franchies, point de suspension. C'est un article de Aline Chénet de Beaupré. Et donc, c'est un article strictement de droit, puisque c'est sur le site Dalloz Actualités. Alors, où il n'est plus question de fin de vie. Alors que le projet de loi numéro 2634 relatif à l'accompagnement des malades et de la fin de vie est débattu devant l'Assemblée nationale depuis le 27 mai, la confusion se propage sans surprise juridiquement. La cessation des souffrances insupportables et réfractaires d'une personne en fin de vie relève déjà de l'histoire ancienne. La SLA, maladie de Charcot, présentée comme illustrant la nécessité de la loi, est dépassée. La question de la fin de vie relève dorénavant d'un, entre guillemets, choix, l'autonomie de la volonté à céder la place à l'autodétermination. Au-delà de la querelle irréductible entre partisans des soins palliatifs et partisans de l'euthanasie, le texte ne concerne déjà plus la fin de vie. Les critères de court ou moyen terme sont abandonnés. Alors, peut-être que je me dois de vous lire les notes qui correspondent à ces phrases. Les médecins soulignaient notamment l'impossibilité de déterminer ce que serait un moyen terme en matière de fin de vie, le court terme s'avérant déjà parfois délicat. Demander à mourir relève d'un choix personnel. Le entre guillemets, modèle français annoncé recopie et rattrape les modèles étrangers pour proposer le projet le plus progressiste ou permissif selon les lectures au monde. Le président de la République, en mai dernier, voulant voir la mort en face, rassurait sur le discernement des cadres stricts et verrous pour une aide à mourir de fraternité. Le texte ambitieux, muet sur les termes clés, est emporté quelques semaines plus tard dans un effet boule de neige mal maîtrisé. Le projet copie essentiellement la Belgique, qui ne connaît que l'euthanasie. Organisant une demande faite par un patient à un médecin devant solliciter l'avis d'au moins d'un autre, la collégialité chère au Code de la santé publique disparaît. Conscient de la réticence de la majorité du corps médical et du manque de soignants, le texte prévoyait que la mort pourrait être, entre guillemets, donnée par un médecin ou un soignant, infirmier, ou même un simple proche du patient, sans compétence médicale particulière. Un amendement tardif supprima le recours aux proches. De nombreux points du texte soulèvent des interrogations juridiques majeures. Speed dying, 15 jours. Bien loin des prêts de la loi Scrivener, laquelle ne considère que les biens immobiliers, la vie humaine serait régie par des délais plutôt expéditifs. Ainsi, le médecin sollicité par un patient devrait-il se prononcer dans un délai de 15 jours à compter de la demande ? Code de la santé publique, article L1111-12-2. La clause de conscience n'existera que pour les soignants, non pour les pharmaciens. Elle ne pourra être collective pour un service ou un établissement de santé, mais deviendra discutable face à l'obligation pour un soignant d'être présent dans les murs lors d'une administration létale. De même, les listes préétablies de soignants acceptant de pratiquer les injections létales est-elle difficile à concilier avec la clause ? 48 heures chrono. Le délai pour confirmer au médecin qu'une personne demande bien l'administration de la substance létale est de 48 heures. Toutefois, je cite le Code de la santé publique, article L1111-12-4 du projet, ce délai peut être abrégé à la demande de la personne si le médecin estime que cela est de nature à préserver la dignité de ce dernier telle que celui-ci la conçoit. Ce délai abrégé est problématique en ce qu'il confond la dignité, terme toujours discutable, perçue par le patient ou par le soignant. Le médecin disposerait de la possibilité d'abréger le délai de réflexion de 48 heures s'il estimait que la dignité du patient était atteinte. Court terme, moyen terme, sans terme. Si la détermination du court terme par les soignants peut être parfois délicate, le moyen terme était a fortiori dénoncé par les praticiens comme impossible à poser. Le projet de loi a gommé ces difficultés en élargissant fortement le champ des possibles. Être en fin de vie n'est dorénavant plus une condition pour accéder à l'aide à mourir. Code de la santé publique, article L1111-12-2. Aider, accompagner, soigner, faire mourir, suicider ? Mal nommer les choses. Pour Camus, c'est ajouté au malheur du monde, pour le juriste et notamment le pénaliste, c'est inquiétant. Le choix a été fait de ne pas nommer l'euthanasie et le suicide assisté. Les termes n'apparaissent pas une seule fois dans le projet de loi, contrairement aux recommandations du Conseil d'État. Se suicider relève déjà du pléonasme, puisque « suicidere » signifie « tuer soi », plus encore un suicide effectué par un tiers interroge « tuer soi par soi-même ». Quand un proche aide à mourir. Le Canada connaît l'aide médicale à mourir regroupant euthanasie et suicide assisté. L'aide à mourir française se dispense quant à elle du corps médical. Un proche, sans aucune compétence particulière, devait pouvoir réaliser l'administration de substances létales. Procureurs et magistrats s'inquiétaient dès lors légitimement de dossiers futurs où une jeune femme aurait soulagé son vieux mari, un jeune aiderait sa grand-mère à héritage. Meurtres et assassinats étaient aussi bien proches. Le proche aidant fut retiré par un amendement. Accompagnement confus. On regrettera un jeu sémantique probablement non fortuit, semant la confusion. Historiquement, le terme d'accompagnement est associé aux soins palliatifs qui accompagnent la vie jusqu'à la mort. Or, le rapport Chauvin de novembre 2023 s'intitule « Vers un modèle français des soins d'accompagnement ». Explication de texte. Vise un objectif. Alors, vers un modèle. Vers vise un objectif n'existant pas aujourd'hui. Un modèle français, c'est l'expression utilisée depuis un an pour réfléchir à l'accueil de l'euthanasie et du suicide assisté en France. Soins, les partisans des soins palliatifs claironnent depuis toujours, donner la mort n'est pas un soin. Accompagnement, le terme soins palliatifs n'apparaît pas. Pourtant, le rapport est présenté comme posant une stratégie décennale pour les soins palliatifs. Une telle confusion organisée ne peut qu'inquiéter en matière de fin de vie. Sans surprise, le projet de loi reprend l'ambivalence quelques mois plus tard. Projet de loi relatif à l'accompagnement des malades et de la fin de vie. Le titre premier vise à renforcer les soins d'accompagnement, les soins palliatifs et les droits des malades. Un pas est franchi. Les soins d'accompagnement sont distingués des soins palliatifs. Il s'agissait bien de deux notions distinctes dans l'esprit des rédacteurs et l'accompagnement mystérieux est présenté comme un soin. Le titre, il est quant à lui consacré à l'aide à mourir. Celle-ci est donc déjà présente en titre 1. Ah oui, le titre 2, pardon, le titre 2 est quant à lui consacré à l'aide à mourir. Celle-ci est donc déjà présente en titre 1 via l'accompagnement, alors même que le titre 1 devait n'être consacré qu'au seul soin palliatif à développer, enfin, 25 ans après la loi de 1999. Cette confusion se retrouve également dans le financement des soins palliatifs, Projet de loi, article 1er, terre nouveau. Le financement des soins palliatifs, décrivant le périmètre budgétaire concerné, sont intégrés et mélangés 1. L'hôpital de jour et les courts séjours. 2. Les séjours en service de médecine générale ou de chirurgie. 3. Les séjours en lit identifiés de soins palliatifs. 4. Les séjours en unité de soins palliatifs. 5. Les journées d'hospitalisation à domicile. 6. Les séjours en soins médicaux et de réadaptation. 7. Les missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation. 8. Le fonds d'intervention régionale dont les équipes mobiles de soins palliatifs et les équipes ressources régionales de soins palliatifs pédiatriques. 9. Les actes des professionnels de santé libéraux. 10. Les médicaments délivrés en ville et relevant d'un parcours palliatif. De cette liste, seuls les 7 et 8 sont exclusivement consacrés aux soins palliatifs, une confusion étant opérée avec la T2A tarification à l'activité. Enfin, un amendement vient de décider que les sédations profondes et continues jusqu'au décès, instituées par la loi Claeys-Leonetti de 2016, Code de la santé publique, article L1110-5-2, serait transmise à la commission d'aide à mourir. Or, les sédations profondes et continues jusqu'au décès sont étrangères à l'aide à mourir. Elles ont lieu pour des personnes condamnées à très court terme, 1 à 2 jours, et qui sont confrontées à des souffrances réfractaires. Or, on l'a vu, le projet d'aide à mourir a quitté ses rives cadrées. Se faire suicider. Chaque suicide est une catastrophe. Chaque suicide est une catastrophe à l'origine de beaucoup de douleurs ou de traumatismes chez les proches, et il peut être l'un des événements les plus difficiles auxquels sont confrontés les professionnels de santé. Il est considéré qu'un suicide impacte ainsi 6 à 14 personnes dans l'entourage, famille, camarades de classe, collègues de travail, etc., et expose 135 personnes. Fin de citation, Direction générale de la santé, stratégie nationale de prévention du suicide, février 2024. Chaque suicide est une catastrophe, affirme la Direction générale de la santé. Le ministère de la Santé et de la Prévention tente de poursuivre ses efforts en matière de prévention du suicide, mais cet état d'urgence mondiale, entre guillemets, alors là il y a une autre note qui est de OMS 2014, prévention du suicide, l'état d'urgence mondial. Cet état d'urgence mondial est annihilé par une promotion antinomique du suicide assisté dans un contexte de secteur psychiatrique en crise. Sur la crise du secteur psychiatrique, voire des articles, des infos, France Bleu, Radio France, à Toulouse, par exemple. Je reprends la lecture de cet article. Le ministère de la Santé et de la Prévention tente de poursuivre ses efforts en matière de prévention du suicide. À tout le moins, aurait-on pu attendre une protection contre les médiatisations ou promotions sur les réseaux sociaux, tant l'effet Werther est à craindre. Alors, je vous explique maintenant avec la note 5 qu'est-ce que c'est que l'effet Werther. Suicide mimétique manifesté par une hausse du nombre de suicides après la médiatisation d'un cas de suicide. Certes, les termes de suicide et suicide assisté n'apparaissent pas plus que celui d'euthanasie dans le projet de loi, mais le futur article L1111-12-1 du Code de la Santé publique prévoit que l'aide à mourir consiste à autoriser et à accompagner une personne qui en a exprimé la demande à recourir, qui en a exprimé la demande, oui, à recourir à une substance létale dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L1111-12-2 à L1111-12-7, afin qu'elle se l'administre ou, lorsqu'elle n'est pas en mesure physiquement d'y procéder, se la fasse administrer par un médecin, un infirmier ou une personne majeure qu'elle désigne et qui se manifeste pour le faire, faute d'être nommée une nouvelle fois. Le juriste s'interrogera sur la distinction entre suicide et suicide assisté, entre vouloir, pouvoir, ne pas pouvoir, se suicider. Le suicide, assisté ou non, s'invite au cœur de la réflexion. S'il est assisté, un soignant est impliqué dans le processus pour y réfléchir, mettre en place et surveiller le déroulement. Or, les soignants sont, dans leur majorité, opposés au projet de loi. Les clauses de conscience qui pourront être invoquées rendront l'aide à mourir parfois difficile à mettre en œuvre sur fond de manque de personnel de santé. L'hypothèse française qu'un proche puisse procéder à mourir allégeait cette problématique. Soins palliatifs en souffrance. Effectivité inaccessible. L'article L119.1 du Code de la Santé publique du projet prévoyait déjà que la personne dont l'état de santé le requiert, qui a demandé à bénéficier de soins palliatifs et qui n'a pas reçu dans un délai déterminé par décret une offre de prise en charge palliative, peut introduire un recours devant la juridiction administrative afin que soit ordonnée sa prise en charge. L'effectivité de ce recours pouvait déjà susciter quelques interrogations, notamment en se rappelant que le patient l'introduisant, se trouve en fin de vie. Le cynisme augmente si l'on songe au retard acté de la France en matière de soins palliatifs qui a conduit le gouvernement à envisager une stratégie décennale pour tenter de combler ce retard. Lors de l'examen devant l'Assemblée nationale a été voté un amendement introduisant un droit opposable aux soins palliatifs. Ce droit opposable aux soins palliatifs serait notamment copié sur le DALO, droit au logement opposable aux lois du 5 mars 2007. Outre que le logement est un bien quand le patient est une personne physique, l'amendement, non soutenu par le gouvernement, ne définit pas clairement l'accès aux soins palliatifs. Quand l'objectif pourrait-il être considéré comme non atteint ? Faut-il se voir proposer à minima un rendez-vous avec un médecin ? Par ailleurs, les regrets d'ineffectivité du DALO exprimés par la Cour des comptes en 2022 rendent peu optimistes pour les soins palliatifs. Enfin, l'euthanasie pourra être opérationnelle en 2025, alors que la stratégie décennale envisagée pour les soins palliatifs démontre un retard qui sera long à combler. Les soins palliatifs portés au nu par tous, même les partisans de l'euthanasie, sont en souffrance depuis 25 ans au moins. Loi numéro 99-477 du 9 juin 1999, visant à garantir l'accès aux soins palliatifs. La Cour des comptes en 2023 regrette que seule la moitié des personnes en fin de vie qui en auraient besoin puissent accéder à cette prise en charge. Cour des comptes, soins palliatifs, rapport du 5 juillet 2023. Ce sont ainsi près de 180 000 personnes par an en France qui ne peuvent accéder aux soins palliatifs, chiffre d'autant plus inquiétant que les patients demandant l'euthanasie abandonnent leur demande dès qu'il y a prise en charge par les soins palliatifs, dans la quasi-totalité des cas. Leur développement devait constituer le préalable à toute réflexion sur une éventuelle évolution de la fin de vie en France, au dire tant du Comité consultatif national d'éthique, CCNE, 13 septembre 2022, avis 139, du Conseil d'État, mai 2024, que de la Convention citoyenne sur la fin de vie, avril 2023. Les bonnes résolutions semblent envolées. Il n'y a pas d'exception d'euthanasie. Concernant l'exception euthanasique, des verrous illusoires. Parler de cadre restrictif de verrous est déplacé car les démonstrations sont faites de leur impossibilité. Outre les précédents étrangers, Belgique, Pays-Bas, Canada, qui témoignent de la levée progressive et inéluctable des conditions, le simple exemple français le trahit également. Le texte a été élargi après le passage en commission spéciale et enfle de nouvelles exceptions avec les amendements devant l'Assemblée. Inexorablement, la limite de l'interdit de tuer étant franchie, les revendications un pas plus loin, un cas plus loin, sont inévitables. Tout refus opposé à une catégorie de personnes sera susceptible de constituer une discrimination ou une injustice. Comment répondrait-on ? Revenez dans 6 mois à un mineur de 17 ans et demi demandant à être euthanasié. Les Pays-Bas sont, logiquement, passés de 18 à 16 ans avec une autorisation parentale consultative, puis 12 ans avec une autorisation parentale obligatoire avant 2023, puis sans limite d'âge en 2023, rejoignant ainsi la Belgique qui avait fait disparaître la condition d'âge dès 2014. Le Canada, qui n'a légalisé qu'en 2016, projette un élargissement de l'accès à l'aide médicale à mourir aux mineurs matures 14-17 ans. Rappelons également que la Convention citoyenne sur la fin de vie avait annoncé accueillir l'euthanasie pour les mineurs avant de retirer cette mention de son rapport écrit. Critères d'éligibilité croissants. L'article L. 1111-12-2 du Code de la santé publique du projet posait comme condition d'éligibilité à l'aide à mourir d'être atteint d'une infection grave et incurable en phase avancée ou terminale, de présenter une souffrance physique accompagnée éventuellement d'une souffrance psychologique liée à cette infection qui est soit réfractaire au traitement, soit insupportable lorsque la personne ne reçoit pas de traitement ou a choisi d'arrêter d'en recevoir, et enfin d'être apte à manifester sa volonté de façon libre et éclairée. Cette délimitation était déjà vaste et imprécise, autorisant très largement l'éligibilité de pathologies physiques ou psychiques, et le stade terminal n'était plus imposé. Outre l'élargissement, médicalement polypathologie est devenu synonyme de vieillesse. De fait, en Belgique, les polypathologies requises pour accéder à une euthanasie sont assez faciles à réunir pour une personne âgée sans atteindre un cancer métastasé. L'arthrose constitue une première pathologie souffrante très répandue. Les amendements ont fait évoluer l'aide à mourir qui relève dorénavant d'un, entre guillemets, choix. La subjectivité de ce critère change profondément le visage d'ensemble du projet. Vulnérabilités et consentement. Le consentement disparaît dans le projet. À l'article L. 1111-11 du Code de santé publique. Nous citons l'article, enfin un extrait. Dans le cadre des directives anticipées, la personne peut indiquer son choix individuel du type d'accompagnement pour une aide à mourir lorsque la personne perd conscience de manière irréversible. Cette perte de conscience irréversible se concilie mal avec le recueil du consentement libre et éclairé au moment de l'administration létale prévue à l'article 11 du projet de loi. C'est retrouver simplement le modèle québécois où, depuis 2021, la loi concernant les soins en fin de vie permet à une personne en fin de vie qui satisfait à toutes les conditions pour obtenir l'aide médicale à mourir de la recevoir même si elle est devenue inapte à consentir aux soins au moment de son administration. Québec, exigence requise pour recevoir l'aide médicale à mourir. Les personnes vulnérables sont celles qui demain seront concernées avec l'aide à mourir de façon plus ou moins éclairée, plus ou moins libre. Personnes âgées, personnes avec un handicap mental ou physique, personnes en précarité financière. Peut-on envisager un consentement libre et éclairé pour une personne âgée en EHPAD, une personne atteinte d'un handicap mental, une personne en situation de précarité financière ou encore demain un nourrisson lourdement handicapé quand les mineurs seront éligibles ? Pour les Pays-Bas, l'université de Cambridge fait état en 2023 d'une inquiétante augmentation des euthanasies pratiquées sur des personnes présentant des défaillances intellectuelles ou autistes. Au Canada, l'admissibilité à l'aide médicale à mourir pour les personnes souffrant uniquement d'une maladie mentale est reportée au 17 mars 2027. Le chemin est tracé. Alors, Ercoelio, Maher, Sonu, Guin et Lemens, The Realities of Medical Assistance in Dying in Canada, Cambridge University Press, 18 juillet 2023. Et pour ce qui est du Canada, c'est là le projet de loi C-62. Alors, allez, dernière partie de cet article de Dallos Actualités du 11 juin 2024. Euthanasie sans entrave, point d'interrogation. Le délit d'entrave à l'aide à mourir, puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende, entrave à l'aide à mourir, heurte frontalement la prévention du suicide et la non-assistance à personne en danger. Code pénal 226.6, alinéa 2. Au premier plan, psychiatres et soignants de soins palliatifs pourraient se voir reprocher d'exercer leur activité de soignant. Leurs soins étant prodigués notamment sur des personnes dépressives, pathologiquement en lassitude de la vie ou la réanimation de personnes en détresse ou en fin de vie. Les psychiatres regrettent par ailleurs de n'avoir pas été auditionnés par la commission spéciale. L'amendement, soutenu par le ministre de la Santé, copie le délit d'entrave à l'interruption volontaire de grossesse. Code de la Santé publique, article L2223-2. Mais en cas d'IVG, la mère est protégée dans sa vie. Dans l'aide à mourir, le patient sera au contraire accompagné vers la mort. Question d'argent, assurance vie et mort provoquée. L'aléa assurantiel a fait l'objet de développements spécifiques dans le projet, l'objectif étant de considérer la mort provoquée comme une mort naturelle. L'article L132.7 du Code des assurances est complété par un alinéa ainsi rédigé. L'assurance en cas de décès doit couvrir le décès en cas de mise en œuvre de l'aide à mourir prévue à l'article L111.12.1 du Code de la santé publique. Les enjeux financiers sont importants, l'aléa risquant de disparaître avec le suicide assisté. Il sera pourtant délicat de distinguer un suicide d'un suicide assisté. Si je me suicide seul quand je suis atteint d'une pathologie dans l'année de souscription de mon contrat, l'assurance sera de nul effet contrairement à un schéma comparable où un tiers m'aurait aidé. De même, certains proches aidant le souscripteur pouvaient se trouver proches d'un meurtre ou d'un assassinat. Or, le contrat cesse d'avoir effet à l'égard du bénéficiaire condamné. Code des assurances, article L132-24. Le coût de la mort. $80, l'euthanasie, one shot au Canada, contre 985 euros la journée pour des soins palliatifs inscrits sur la durée en France. Coût moyen d'un séjour, 10 840 euros. Les calculs sont vite faits. L'université de Calgary a calculé jusqu'à 139 millions de dollars d'économies annuelles pour le budget des soins de santé à la suite de la dépénalisation de l'aide médicale à mourir au Canada. Alors, je ne sais pas si c'est les dollars canadiens ont la même valeur que les dollars états-uniens, je crois que ce n'est pas le cas, mais quand même. Le milliard promis par le plan de stratégie décennale ne constitue en réalité qu'une augmentation de 6% du budget actuel des soins palliatifs. La question financière fait réfléchir avec inquiétude dans un contexte de crise du système de santé, de dégradation de la note de la France. L'inquiétude croît quand des mutuelles s'affichent dans un pacte progressiste, entre guillemets, soutenant l'euthanasie. Alors, un modèle français ? Pourtant, le modèle français existe, ça existe déjà. C'est la loi Claeys-Leonetti de 2016, évaluée par la commission fin de vie, encensée par les praticiens, les patients et les juristes, mais méconnue. Arrêt des traitements demandés par le patient, rédaction de directives anticipées, non-obstination déraisonnable, sédation profonde et continue maintenue jusqu'au décès. Les lois de 1999, accès aux soins palliatifs, 2002, loi Kouchner, 2005, loi Leonetti et 2016, loi Claeys-Leonetti, ou aboutit à un corpus cohérent, respectueux de l'autonomie du patient et des missions du soignant. Méconnus également les soins palliatifs portés au nu jusque par les partisans de l'euthanasie. Depuis la loi du 9 juin 1999, votée à l'unanimité, la France dit vouloir garantir l'accès aux soins palliatifs pour tous. Là, en 2024, 500 personnes meurent chaque jour sans avoir pu bénéficier de soins palliatifs. Rendre effective la loi de 1999 par des moyens idoines, appliquer la loi de 2016 plutôt que de créer une loi dangereuse pour les plus vulnérables et la société. On le voit, les patients atteints de la maladie de Charcot, justifiant fraternité et solidarité, sont bien loin. Sans surprise, s'applique la logique du brocard. Une fois les bornes franchies, il n'y a plus de limite. Or, la borne de l'interdit de tuer structure toute société. Voilà, donc on le voit, c'était un article assez critique de cette loi. Donc nous avons voulu le partager avec vous. Chers auditeurs et auditrices de l'Entonnoir sur Radio Libertaire, l'Entonnoir, émission critique de la psychiatrie et plus largement du pouvoir médical. Eh bien, on va faire une pause avec un morceau de Ronald Shannon Jackson, Aged Pain. Thank you. Radio Libertaire 89.4, la voix sans Dieu, sans maîtresse, sans publicité, la radio libre de la Fédération Anarchiste. Et c'est toujours l'Entonnoir, émission critique de la psychiatrie. Et donc, un article critique de la psychiatrie, c'est ce que je vous propose de vous lire maintenant pour finir ces quelques minutes. Un article de L'Envolée. Catégorie lettres, alors lettres de prison, mais là c'est lettres de psychiatrie, donc qui date de 2020, le 20 octobre 2020. Donc chapeau de L'Envolée, de la rédaction de L'Envolée, puis le texte de la lettre. On n'avait pas encore publié cette lettre écrite en 2020 par une personne enfermée à l'hôpital psychiatrique des Eaux-Vives en région parisienne. Dans notre émission et notre journal, on parle rarement de ces lieux d'enfermement car on y a moins de contacts, mais ces paroles nous rappellent bien que les HP sont aussi des prisons et où on subit un enfermement contraint, encadré par la justice et où le quotidien est soumis à l'arbitraire d'une administration. Force à toutes les personnes psychiatrisées sous contrainte et leurs proches. Continuons de faire sortir la parole de ces lieux et de soutenir celles et ceux qui y sont enfermés. Salut L'Envolée. Déjà, quand tu arrives ici en HP, ça commence par le déshabillage et ça, c'est humiliant. Il y a de l'isolement aussi qui est une forme de torture psy. Il y en a beaucoup d'autres ici, des formes de torture, comme la contention où ils te ligotent. Le mot est faible, c'est comme une camisole. Il y a une chambre qui s'appelle la cellule d'isolement et après, il y a une camisole chimique qui peut avoir lieu. Il y a un autre truc qui s'appelle le patch, et genre on t'immobilise et tu peux plus bouger, t'es attaché à un lit. Moi, ils m'ont fait ça pendant 20 minutes, j'avais peur qu'ils m'abandonnent là. C'est tous leurs outils pour la torture. Quand t'arrives ici à l'hôpital, le premier truc qu'ils te font, c'est te mettre à poil pour vérifier que t'as pas de drogue sur toi ou quoi que ce soit. Et après, ils te filent une tunique ou un pyjama où on se sent complètement à poil. Parce que les médecins et infirmières et les anciens patients, eux, sont habillés. C'est humiliant et ça crée un truc par rapport aux autres patients, ça met une distance. Je trouve ça absurde qu'on condamne des gens parce qu'ils sont malades. À chaque fois que je suis hospitalisé ou interné, ma grand-mère m'envoie des cartes postales. Et ça, ça fait très plaisir. Dès qu'on est enfermé, la première chose qu'on fait, c'est rédiger un papier ou pour le juge ou écrire un papier à sa femme ou sa famille. J'ai vu des gens qui arrivaient là-dedans, en hôpital psychiatrique. La première chose qu'ils faisaient, c'était de rédiger un testament. Souvent, le fait que les gens sont internés, on pense directement à la folie. Mais souvent, c'est lié à des événements extérieurs, situation économique, familiale ou de société. Ici, pour vous décrire comment ça se passe, t'as une petite chambre avec une petite table, une chaise et un lit. C'est pas un hôtel F1, c'est sûr. Il y a des toilettes, mais il n'y a pas de douche. Ici, c'est mal isolé. Ma chambre donne sur un couloir. À gauche, il y a un côté où, à une époque, ils avaient mis tous les gens qui avaient attrapé le Covid. À côté de ma chambre, il y a la cellule d'isolement. Là, il y a un mec qui a été, comment dire, peut-être pas neutralisé, mais violenté par les infirmiers parce qu'il était réticent à leur obéir. Là, il est enfermé à l'isolement, on ne sait pas pour combien de temps. Lui, il crie derrière la porte qu'on le torture et il demande à voir les surveillants. J'essaie d'aller lui parler à travers la porte pour le rassurer. Je comprends qu'il soit pas bien. Quand je suis arrivé ici, je me suis réveillé et je savais pas ce que je foutais là. La journée ici. Normalement, on te réveille à 7h pour aller à la douche. Mais moi, j'ai obtenu de me lever à 8h. Et j'arrive pas à utiliser leur douche. L'hygiène, c'est important, c'est sûr, mais ici, il n'y a pas d'intimité. Il y a une douche pour 20 personnes, je ne vais pas faire la queue en slip avec un savon. Le petit-déj, c'est un beurre président, confiture, du pain. C'est le premier truc qui se passe dans la journée. C'est un moment important. Jusqu'à midi, on fait ce qu'on peut. Il y en a qui lisent comme moi, d'autres qui sortent dans le parc parce qu'ils sont autorisés. Moi, j'ai eu des permissions en ville. Je pourrais rentrer chez moi si je voulais, mais j'ai plus mes clés, mon portefeuille ou quoi. Ils m'ont tout pris. Bon, donc je reste là. La différence entre la psychiatrie et la prison, c'est qu'en prison, t'as une peine, ça dure un certain temps. Ici, en psychiatrie, on n'a aucune idée de date de sortie. Et ça, c'est angoissant. Ce que j'essaie d'expliquer à ma responsable, je ne comprends pas ce qu'ils veulent de moi. Je ne sais pas si je dois fermer ma gueule ou faire genre que je vais mieux. Apparemment, il faudrait que je patiente. Le temps de comprendre ça, c'est déjà quelque chose. Moi, ça me fait peur de rester ici jusqu'à la fin de ma vie. Ici, je vois des vieux qui sont là depuis longtemps. Je vois des gens qui sont là depuis 15 ans. En fonction de ton attitude, quand tu arrives, d'abord, tu as un entretien avec un médecin pendant 10 minutes qui évalue si on te met à l'isolement ou pas. Mais si tu arrives le week-end ou un jour férié, il n'y a pas de médecin disponible pour te recevoir, alors tu vas à l'isolement direct. Au début, quand tu es à l'isolement, tu as le droit à 4 cigarettes par jour. En bâtiment fermé, tu as 10 cigarettes. Et en bâtiment ouvert, comme là où je suis, j'ai le droit de fumer comme je veux. Enfin, en fonction de mes moyens, donc je suis obligé de me limiter. Ici, c'est la guerre des clopes, tout le monde en a besoin. Le troc marche pas mal à base de clopes. Quand t'es à l'isolement, la cigarette, c'est un des trucs qui fait tenir. T'attends ta cigarette, t'essaies d'en profiter un maximum. La cuisine, c'est un problème énorme ici, dans tous les sens du terme. Il y a beaucoup de gens qui ont des intoxications alimentaires parce que la chaîne du froid n'est pas respectée. Beaucoup de produits sont congelés ici et ils font pas attention. Ici, il y a tout un secteur qui s'appelle ISA13. L'autre, c'est l'ASM13, Association Mentale 13. En gros, ici, c'est l'hôpital psychiatrique du 13e arrondissement, même s'il est en Essonne. Il y a d'autres bâtiments dont je ne connais pas le nom, là où on n'a pas accès parce que c'est grillagé. Ça paraît plutôt inquiétant, on sent qu'il se passe des choses derrière la grille. Des fois, il y a des camions qui partent, il y a aussi la police qui passe souvent dans les bâtiments fermés. Il y a 2-3 jours, une personne qui portait pas de masque a été contrôlée dehors, ils l'ont ramenée au bâtiment fermé parce qu'elle était sortie de psychiatrie quelques jours avant. Là, ils viennent de la ramener en bâtiment ouvert, entre guillemets. La première fois que ça m'est arrivé, ce truc-là d'enfermement, j'y suis resté un mois et demi en bâtiment fermé. Ici, on mange à 19h et après, on me donne des médicaments. Après, je m'endors direct, je fume une clope et je m'endors. À 21h30-45, on me redonne un somnifère qui est assez efficace et qui me permet de m'endormir. Et je me réveille le lendemain avec les gens à l'isolement qui tapent à la porte. Même si je dors, on me réveille à 21h30 pour me donner le somnifère. Ça m'a toujours fait halluciner, mais je ne cherche plus à comprendre. Et c'est rien, il y a bien pire. J'ai vécu bien pire et je vois des cas où c'est très compliqué. Il y a des patients qui n'ont pas de visite, pas de courrier, pas de procédure pour faire appel devant la justice, qui ont toujours des médicaments ou qui sont dans des situations d'handicap qui les placent en situation de dépendance totale face à l'administration, à qui on parle comme un des demeurés. Je trouve ça inhumain comme ils traitent ces gens. Au niveau de la justice, ici, ça passe par le JLD, c'est le juge des libertés et détention. Simplement, on arrive dans une salle d'attente. Ça m'est arrivé d'être convoqué au TGI pour les JLD de personnes que je connaissais. Le juge te dit selon quel tel article t'es vraiment malade, mais il y connaît rien en médecine, le juge. Le dernier JLD auquel j'ai assisté, c'était dans une petite pièce. Il y avait le juge, la greffière, le ministère public, mon avocat et moi. L'avocat m'a demandé ce que je voulais. Je lui ai demandé qu'on me libère. Je suis sorti de la pièce et j'ai reçu 2 jours après par courrier des papiers me disant que j'étais prolongé. Le premier JLD, j'ai pas pu y assister parce qu'ils m'ont placé à l'isolement à mon entrée à l'HP. On les voit quand ils sortent de la salle, ils sont tous copains. Le magistrat, l'avocate, la greffière, ils passent leur vie ensemble. L'avocate, le magistrat, c'est plus à lui qu'elle a envie de plaire qu'à moi. En France, la psychiatrie et la prison, c'est la même chose. Voilà, c'est donc la lettre d'une personne enfermée aux eaux vives le 20 octobre 2020, publiée dans le journal L'Envolée. Ainsi se termine pour cette semaine l'émission L'Entonnoir. Au revoir. Et maintenant sur Radio Libertaire. Eh bien, c'est Un rayon de soleil, une émission de Radio Libertaire Méditerranée.
De soleil.
Le libertaire debout, le soleil à son zénith. Une émission de Radio Libertaire Méditerranée.
Les bus qui vont sans sol.